Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes le samedi 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Hammer et je suis accompagné ce matin de Beno FX. Bonjour Beno FX, comment vas-tu ?
Salut Hammer, ça va très bien. Le salon commence à se remplir, il vient d'ouvrir ses portes au public.
Oui, absolument. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir sur le stand Proxy Jeux Christian Lemay du Scorpion Masqué. Bonjour Christian.
Bonjour à vous.
Ah, cet accent québécois, il nous a manqué.
Pour ceux qui ont suivi la cérémonie.
Alors sur scène, j'ai fait un discours avec un petit accent français qui en a surpris plus d'un.
J'ai été très perturbé.
On confirme.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a un petit fil rouge pour toi, notre petit questionnaire cannois. Alors pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma ?
Jeu.
Bière ou champagne ?
Eau pétillante.
Ah oui. D'accord, ouais, bah, réponse originale. Plutôt camping ou Martinez ?
Martinez, c'est...
C'est l'hôtel c'est de luxe, un peu...
Un peu plus loin.
Ah, plutôt camping.
Plutôt off ou dodo ?
Dodo.
Plutôt salon ou festival ?
Festival. Ah,
festival.
Festival.
Et finalement, plutôt pro ou perso ?
Pro.
Ouais, on s'en doutait un peu.
Quand on fait autant de kilomètres pour venir. Christian, pour les trois auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Je m'appelle Christian Lemay et je travaille dans le milieu de l'industrie du jeu de société. Je suis même éditeur pour une compagnie que j'ai fondée il y a bientôt 13 ans, le Scorpion Masqué. On fait particulièrement du jeu d'ambiance et du jeu pour enfants.
Je me disais bien que ta tête me disait quelque chose.
Bon alors, comment ça se passe, Cannes ?
Ben, c'est cool. Pour moi, comme je disais, c'est plutôt pro. Donc, je fais beaucoup de rendez-vous, très peu d'animations. Je crois que j'ai fait une dizaine tout au plus de démonstrations. Contrairement aux premières années où j'assumais tout seul les 30 heures d'animation. En 2013, j'ai fait du C'est pas faux non-stop. Mais maintenant, j'ai des gens qui font ça avec moi et c'est extraordinaire.
Du coup, tu peux venir nous voir.
Oui, oui. Alors, je vois parfois des distributeurs anglais notamment qui étaient de passage hier. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un Chinois qui va passer. Des auteurs, beaucoup. On rencontre des boutiques aussi. Avant, pendant ou après les heures du festival, on fait tourner des protos qui vont sortir dans l'année, des protos qu'on songe à signer ou des protos qui sortiront l'année prochaine. Donc, ouais, c'est
bien
très
occupé,
cool.
Quoi.
Oui.
Pas trop.
Alors, on vient d'entendre une annonce de la dame qui parle à tous les festivaliers et régulièrement en après-midi, ben, elle cherche le petit machin et la petite. Alors moi, j'offre 5 € à celui qui va lui demander le petit Nicolas.
Mais c'est vrai qu'on tombe sur des prénoms marrants ou des noms de famille marrants de temps en temps. Hier, je crois qu'il y a eu un Brian Lafrite. Mais c'est, ouais, les annonces sont assez rigolotes. Donc, j'allais te demander, est-ce que tu n'es pas trop déçu de ne pas avoir eu de prix cette année ?
Bah, j'aurais aimé monter, évidemment, ah, oui. Sur scène une fois de plus, comme j'ai écrit sur le Facebook du Scorpion. Maintenant, bah, je suis très heureux pour les gagnants. Oui, j'ai même écrit dans mon infolettre, ma newsletter. Donc, je suis un compétiteur, j'aime gagner. Donc, mais je pense que c'est le cas. En fait, c'est très amusant parce qu'après la cérémonie, je suis allé prendre un verre avec Benoît Forget de Purple Brain, un autre nominé pour la même catégorie, et avec Timothée de Blue Orange. Et en fait, c'était très agréable ce moment-là. En fait, et Timothée aussi est un compétiteur et vraiment, au final, je le voyais, puis je lui dis, je suis content de voir que t'es à ce point content de gagner, parce que parfois, il y a des gens qui disent, ouais, j'ai gagné, bon, blablabla. Non, mais ta gueule, t'as gagné, sois heureux. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter un peu plus avec Timothée et Benoît après la cérémonie. Ça a été un très beau moment de aide-moi un peu, là. Collégialité.
Convivial,
voilà.
Collégial. Bah, c'est pas le mot non plus.
Écoute, pour tout te dire, Timothée est venu à nos micros, il nous a aussi parlé de cette discussion et
de ce petit débrief que vous avez fait, ouais.
Et il nous a dit aussi que c'était un moment très très agréable.
Cool.
Puisqu'on parle des As d'or et en l'occurrence de Zombie Kids Evolution, qui était un des nommés, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu cette idée de finalement refaire une deuxième version de ce jeu qui était sorti, je crois, la première fois en 2013, c'est ça?
Exactement. Donc, on a cette gamme Petits Monstres qui fonctionne plutôt bien. On a La Chasse aux Monstres qui est un de nos meilleures ventes. Pour vous donner une idée, je crois qu'en francophonie, on va dépasser les 20 000 exemplaires cette année. Et c'est un jeu qui est sorti il y a 10 ans et qui se vend un petit peu plus d'année en année. Vous allez trouver assez peu de jeux de société dans le marché moderne qui se vendent plus d'une année à l'autre. Et donc, on a eu À la bouffe qui avait bien fait, surtout au Québec, plus qu'en France, mais quand même. La légende du Wendigo qui avait été très bien reçue. Super projet que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Évidemment, j'étais l'auteur, qui avait même été recommandé au Spiel des Jahres, petit velours pour moi, et monstrueux. Donc, on nourrissait cette gamme, et puis on s'est dit, tiens, Zombie Kids, il me semble qu'il y aurait quelque chose à refaire. Donc, c'était déjà il y a un an, à Cannes, dans les projets de refaire Zombie Kids, dans le nouveau format de la gamme Petit Monstre, qui est plus grand, avec le nouvel illustrateur Nikao, qui est génial.
Oui, c'est...
je manque de superlatifs. Et donc, l'idée aussi, c'est que après la sortie du premier Zombie Kids, on avait des petites cartes promo qui avaient été offertes ou vendues, je crois, et tous les profits étaient reversés à Arbre Canada pour financer la plantation d'arbres. Et on voulait évidemment les inclure d'office dans la nouvelle boîte. Mais on se posait la question, comment les intégrer? Est-ce que c'est simplement une variante? Est-ce que ça fait partie de la règle de base? Est-ce qu'on suggère pas au public de ne les utiliser qu'après 5 ou 6 parties? Tout ça est un peu confus. Et au fil des discussions, parce que j'en parlais à plusieurs personnes, et c'est la beauté de la chose, c'est la naissance des idées. C'est là qu'on voit que ceux qui disent « Ah, ceci est mon idée, c'est moi qui... » Bien souvent, je crois que ils ont pas piqué l'idée, mais je veux dire, ça naît de la discussion avec d'autres. Peut-être qu'il y a des génies qui arrivent à créer seuls dans leur sous-sol, mais bon, moi, ce que j'observe, c'est que vraiment la naissance des idées, c'est à travers la discussion. Et donc, je parle, et puis, ah, ça pourrait être dans une enveloppe. Ah ouais, c'est cool. Bon, ça va être dans une enveloppe qu'on va ouvrir à un moment donné. Et puis, après, on dit, on va écrire dans les règles, n'ouvrir qu'après 5 parties où on va l'écrire sur l'enveloppe. Et puis, tu repars de l'idée, tu dis, ah, mais là, est-ce qu'on les met toutes dans une enveloppe, les petites cartes pouvoir, parce qu'il y en a une pour chaque personnage, ou on les met dans plusieurs enveloppes. Ah ouais, ça pourrait être cool dans plusieurs enveloppes. Et puis là, il dit, ah, mais il y a un espace créatif qui s'ouvre là parce qu'on pourrait avoir plusieurs enveloppes. Et donc, tout ça de fil en aiguille au Festival de Cannes l'an dernier et au retour, naît l'idée de dire ah, « on fait un truc un peu comme un legacy pour enfants ». Et là, pouf, je me souviens plus qui a dit cette phrase. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais au final, je crois que ça n'a pas tellement d'importance parce que c'était là.
Le déclic.
Voilà, c'était le déclic. Je reviens à Montréal, j'écris à Annick Lobel, l'autrice du jeu, car semble-t-il que c'est un mot qui date du 16e siècle, un truc comme ça. Et donc, Annick, il faut faire un legacy ou un truc qui évolue. Elle me répond, mais on n'a pas le temps parce que les fichiers doivent partir en impression quelque chose comme le 1er juin. Je le sais qu'on n'a pas le temps, mais on le fait quand même. Et donc...
Au début, c'était une réédition classique. Et...
Ah oui, bah avec des nouvelles illustrations, ouais. Nouveau format et tout, meilleur matériel. Mais au début, c'était le plan avec l'inclusion des petites cartes pouvoir. Et là, ben, est venue l'idée du truc évolutif. Et Annick est un bourreau de travail incroyable. Et donc, c'est ça, en l'espace de 2 ou 3 mois, surtout en binôme avec Manuel Sanchez, notre directeur créatif, ils ont pondu ensemble ce système évolutif qui, je crois, a transformé ce qui aurait été un jeu sympathique. C'est un bon jeu à la base, ça, je l'aurais pas publié sinon, mais ça transforme un jeu sympathique, mais qui est un produit parmi tant d'autres, en un produit vraiment unique et qui a développé, on le voit, une addiction réelle des jeunes. Moi, j'ai des parents, et pas juste un, qui m'écrivent pour me dire « mon fils, ma fille, abandonne les jeux vidéo pour jouer à votre jeu. J'ai jamais vu ça. Comment avez-vous fait ?» Donc, c'est vraiment extraordinaire, ça.
En même temps, je connais pas beaucoup d'enfants qui aiment pas qu'on leur raconte des histoires, et c'est visiblement ce que fait ce jeu, donc...
Oui, ben, le truc qui évolue, et c'est la curiosité, mais c'est aussi qu'ils s'attachent aux petits personnages qu'ils ont avec lesquels ils rejouent, et ça, c'est mon pouvoir. Et là, il y a des surprises, vraiment. Il y a un autre parent qui me disait, ah, ma fille a crié en ouvrant une enveloppe, je sais plus laquelle, parce qu'elle a découvert que machin est chose. Et donc, ça, je trouve ça d'une très grande beauté. En fait, c'est touchant comme éditeur de dire, on est un petit peu en arrière de ça. C'est au-delà de tout ce qui est aspect commercial, il y a, parce qu'au final, des chiffres, c'est un peu abstrait, tout ça. Mais quand ça devient humain, ça me fait repenser, tiens, la peste de Albert Camus, à un moment donné dans le roman, ils disent « Ah, il y a eu 1000 morts ou 100 morts, je sais plus, la semaine dernière. » Mais au final, tout ça ne signifie rien tant que c'est pas une personne qui est proche oui. de toi. Et tout à coup, bon, on a vendu 1000 jeux ou 10 000 jeux, mais au final, c'est des chiffres. Sauf que là, tout à coup, il y a un parent qui nous a écrit « Ma fille a crié de joie en ouvrant une enveloppe. » Et là, ben, tout à coup,
c'est bien du concret, quoi.
Ah ben oui, c'est beaucoup plus extraordinaire.
Et en plus, je pense que ça intéresse aussi un peu plus les parents, puisque il y a ce côté histoire. C'est peut-être un peu moins lassant que certains autres jeux pour les parents, en tout cas pour le côté.
Ben en fait, je sais que plusieurs ont joué à des jeux adultes. Plusieurs sont des papas ou des mamans joueurs joueuses. Et puis soit ils ont joué à du Legacy ou ils ont joué à du jeu plus costaud. Et là, ben on veut que nos enfants. Et je suis dans cette situation. Mes enfants ont 5 et 8, donc on veut jouer avec nos enfants. Parfois, certains titres ben, sont destinés qu'aux enfants, mais on va jouer avec ouais. eux quand même. Mais là, tout à coup, on s'ennuie pas parce que dans Zombie Kids, ben, plus on ouvre d'enveloppe, plus il faut réfléchir un peu et on partage cette expérience de la découverte avec l'enfant, mais de la découverte des enveloppes, mais aussi de la découverte des aspects stratégiques. Et là, on voit notre enfant progresser à un rythme fou. Il y a une certaine fierté avec ça. Je fais la campagne avec mes enfants présentement. Donc, tout ça est vraiment touchant.
Puisqu'on parlait des As d'or, j'ai envie de revenir sur des cryptos. Alors tout le monde va me dire, mais attendez,
il était pas nommé.
Il était pas nommé à l'As d'or.
Pourquoi il était pas
Tout le monde s'est un petit peu posé la question. En tout cas, on en a beaucoup parlé sur la twittosphère, c'est ça?
Oui.
En tout cas, des cryptos, c'est un gros succès public pour le Scorpion Masqué. Je crois que c'est le plus gros succès en termes de nombre d'exemplaires vendus.
Non. Alors,
le plus fort démarrage peut-être.
Le plus fort démarrage, c'est ça. Et le plus de jeux vendus en une année, je crois, parce que l'an dernier, on a fabriqué, c'est ça, 135 000 jeux. Bon, il y en a peut-être 120 000 de vendus là-dessus, mais je suis confiant que les 15 000 suivants vont être vendus. On vient de lancer un 20 000 supplémentaire. Et donc, pourquoi des cryptos, c'est la question, ça?
Non, en fait...
Plus grand tirage, pardon. Donc, notre jeu le plus vendu, je vais vous surprendre, j'ai envie quasiment de vous poser la question.
Maudite momie?
Non, maudite momie, on a fait quoi? 20 000, ce qui est pas trop mal, mais...
J'ai réfléchi, alors...
Bah peut-être la chasse aux monstres, justement.
Ouais,
la chasse aux monstres, non, on n'y est pas. Le jeu le plus vendu du Scorpion Masqué s'appelle, au Québec, je te gâche que... Et en France, Bluff Party.
Ah oui. D'accord.
Alors ça, normalement, on va atteindre d'ici la fin de l'année 400 000 unités vendues.
Un beau succès.
Oui, un jeu dont on n'a jamais parlé. Mais évidemment, bon, c'est tout le problème des sites spécialisés de jeux. C'est-à-dire que les gens qui les consultent, c'est des gens qui s'intéressent beaucoup, qui sont passionnés de jeux, qui bien souvent ben, sont passionnés de jeux pour passionner, c'est-à-dire plus expert, et qui s'intéressent moins, et c'est leur droit le plus fondamental, de moins s'intéresser aux jeux grand public, aux jeux plus légers. Et donc, mes Bluff Party a séduit beaucoup de personnes dans plusieurs pays.
Donc, tu dirais que c'est un jeu qui vit sur son bouche à oreille, finalement.
Absolument.
Il est recommandé aux joueurs par les autres joueurs.
Oui, et c'est le principe d'un jeu qui se joue à 15 aussi. Le virus se propage beaucoup plus vite. Mm-hmm. Un jeu à deux, ben, tu contamines une personne à la fois.
Oui, bien sûr.
T'as une soirée avec une dizaine d'amis, tu fais jouer 10 personnes, ben, pouf, voilà, tu viens de contaminer 10 personnes.
Alors, effectivement, je parlais de l'As d'or. C'est vrai que des cryptos, à part le Lys Grand Public, je crois, gagné à Montréal l'an dernier... Bon, il n'a pas reçu de récompense majeure. Il a eu un très, très gros succès. D'ailleurs, dans la team, je pense qu'on en a beaucoup parlé de ce jeu. Est-ce que tu penses que c'est parce que Decrypto fait partie de ces jeux qui sont difficiles à expliquer, mais qui deviennent une évidence après la première manche?
Écoutez, les voix du jury sont impénétrables et j'ai aucune information privilégiée. Donc, tout ce que je vais dire, c'est pure spéculation, des hypothèses. Mais oui, je crois que tous les jeux ont des défauts. Les miens comme ceux des autres et même les meilleurs jeux, ils ont des défauts. Et celui de Decrypto, c'est un défaut qui est à l'entrée. C'est-à-dire que je peux même difficilement l'expliquer, le pitcher à quelqu'un. Et lors de l'explication même, c'est un petit peu laborieux. Aujourd'hui, nous n'expliquons plus Decrypto. En salon, on dit simplement, il faut envoyer des codes secrets avec vos coéquipiers, gagnant. Et on commence à jouer directement. Ouais. C'est ce que notre expérience de quelques centaines de parties nous a enseigné. On ne l'explique plus. Et donc, peut-être, c'est une hypothèse, que cette difficulté d'accès lors des 10 premières minutes, lors des 10 premières minutes, fait en sorte qu'on peut craindre de nominer ou récompenser un tel jeu. C'est une hypothèse.
Est-ce que tu penses que Decrypto a bénéficié de l'élan, pour ainsi dire, donné par Codenames?
Alors, son auteur s'est fait poser la même question sur Balado Ludique, un podcast québécois que je vous invite à suivre d'ailleurs.
Très bien.
Et lui, il ne croit pas. En fait, je sais qu'il est un peu agacé de toujours
la comparaison.
Être comparaison. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a bénéficié? Je sais pas dans quelle mesure, parce que là, il faudrait faire de la psychologie, en fait. Dans quelle mesure les gens vont se dire, ah, c'est un autre Codenames, donc j'y jouerai pas, parce que j'ai déjà Codenames, ou ça m'intéresse pas, ou ça a l'air trop semblable, ou c'est juste carrément, ils essaient de profiter du succès de Codenames. On s'est parfois fait accuser de ça, alors que même j'ai refusé d'abord, moi, de faire des cryptos, parce que j'ai dit, ah non, il y a déjà Codenames, et je veux pas avoir l'air de celui qui surfe sur la vague de l'autre. Maintenant, c'est sûr que Codenames a ouvert la voie, parce que bah, des jeux où il faut faire deviner des mots, les joueurs ne regardaient pas ça avant. Sauf qu'il y a eu un auteur de jeu, Vladosh Vatil, adulé à juste titre pour ses créations un peu geek. Moi, je suis Space Alert est un de mes jeux favoris du monde entier,
oui,
de l'univers.
Il a un jeu beaucoup plus famille, léger que ce qu'il faisait.
Justement. Mais un tel jeu aurait été publié par... J'ai l'impression que ça aurait été publié même par Cocktail Games et il n'aurait jamais eu l'attention qu'il a eu. Par contre, comme c'est un jeu très geek, les geeks ont daigné le regarder, se sont appropriés, ont vu que c'est un jeu absolument génial. Et évidemment, comme c'est un jeu qui se joue à plusieurs, le virus s'est répandu. Les geeks se sont dit, enfin, le jeu qui m'amuse et que je peux jouer avec toute ma famille, tous mes amis. Et paf, ça a eu le succès que ça méritait. Et peut-être, oui, que ça a ouvert la voie. Donc, ma réponse est un peu, il y a un oui et il y a un non.
Par rapport à Decrypto, il y a eu un petit goodies avec une version solo, avec des mots à deviner. Et tu nous parlais l'année dernière, je pense, d'un site où on pourrait rentrer d'un site internet où on pourrait rentrer rentrer nos mots et nos indices, etc., pour générer un peu des versions solo, mais de manière collaborative. Ou alors c'est moi qui ai inventé complètement ça et je voulais t'en parler. Je mélange dans ma tête là.
Alors je n'en ai pas souvenir, mais ça me semble une bonne idée. Nous avons il y a déjà une première extension qui va sortir cette année,
ouais.
Laser Drive, qui devrait arriver fin août début septembre. Et ce qu'on voudrait faire l'an prochain, ce serait un standalone qui fonctionne sur le système que tu mentionnes, solo ou coop en fait, parce qu'on peut le faire à plusieurs contre le jeu. Donc là, pour situer les gens, il existe une version solitaire ou coopérative de Decrypto, qui est un petit paquet de cartes conçu par Bruno Catala pour la version française et par Rob Davio pour la version anglaise. Et puis, on joue à Decrypto contre Bruno Catala. On essaie d'intercepter ses codes. Et puis, l'idée, ce serait d'en faire une boîte, un stand-alone, comme on dit en bon chinois. Et ce serait composé de, je sais pas moi, une trentaine, quarantaine, cinquantaine, une soixantaine de petits decks comme ça, qu'on ne peut faire qu'une seule fois, mais bon, que si on les fait au complet, on a quand même une vingtaine ou une trentaine d'heures de jeu, ce qui me semble raisonnable. Et oui, il va falloir très rapidement songer à créer ces petits decks. Donc, si vous avez envie de participer, vous m'envoyez un petit courriel et on en discute.
Très bien.
Alors, effectivement, sur le salon, j'ai vu que sur le stand Scorpion Masqué, il y a plusieurs tables des cryptos surdimensionnées. Mais il n'y a pas que ça, j'ai vu aussi, et j'ai eu le plaisir d'y jouer, un nouveau jeu de Julien Santis qui s'appelle Stay Cool, le jeu multitâche qui vous fait des nœuds dans la tête. L'auteur de jeu nous a expliqué que c'était parti d'une réflexion de sa femme qui lui avait dit que vous, les hommes, vous savez pas faire deux choses à la fois. Tu peux nous en parler un petit peu?
Il m'a proposé le jeu il y a 2 ans. J'ai reçu le prototype au Festival de Cannes par l'entremise d'une connaissance de Julien. Je l'ai rapporté à Montréal. On a testé dans les semaines qui ont suivi et puis on a signé, je crois, au mois de mars, assez rapidement en fait. Beaucoup de développement sur le jeu. C'était cool parce que c'est un jeu donc effectivement où il faut faire deux choses en même temps. On répond à un joueur qui nous pose des questions et on répond oralement. Donc, je sais pas moi, combien de consonnes dans le mot voyelle ou l'inverse. quel est le double de 1002? Bon, ouais, c'est... Et en même temps, il y a un joueur de l'autre côté qui nous pose aussi des questions auxquelles il faut répondre en écrivant les réponses grâce à des dés sur lesquels il y a des lettres. Et chacune des questions du joueur qui pose des questions écrites se répondent par un mot de 3 ou 4 lettres. Et donc, on manipule les dés pour dire, bon, je sais pas moi, le dévoreur du petit chaperon rouge, je dois écrire loup, donc je cherche un L, je cherche un O, je cherche un U, je cherche un P, et je fais loup. Et je fais les deux en même temps parce qu'à la fin du sablier, à la fin du temps, mon score, ce sera la multiplication des points que j'ai obtenus sur chacun des tableaux, ce qui fait que 5 fois 0, ça donnera toujours 0. Il faut absolument que je fasse les deux activités en même temps. Ça, c'était la première manche. On a en tout 4 sabliers de 30 secondes, donc 2 minutes, pour répondre à un maximum de questions. À la deuxième manche, c'est la même chose, sauf qu'il faudra dire au joueur qui s'occupe du sablier pour nous de retourner le sablier en question avant qu'il ne s'écoule au complet. Par exemple, si on démarre et qu'après 30 secondes, j'ai pas dit sablier au joueur qui s'en occupe, eh ben mon temps est terminé et j'arrête et je ne profite pas de la minute 30 que j'aurais eu en plus. Ce qui arrive parfois parce qu'on est comme un peu distrait, on fait déjà deux autres choses en même temps. À la troisième manche, on joue exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut dire au joueur de retourner le sablier avant que le sable se soit complètement écoulé, mais on ne voit pas le sablier, il nous est caché. Et donc, dans sa tête, il faut évaluer le temps qui vient de s'écouler.
C'est diabolique.
C'est diabolique, oui. Évidemment, je vous mets... je vous rappelle que si vous avez retourné un peu tôt, ah, il me semble qu'il y a à peu près 30 secondes d'écoulé, donc je sablier, mais qu'en fait, il y avait juste 22 secondes d'écoulé, ben au retour, il ne me reste que 22 secondes. Et donc, faudrait être bien malin pour arriver à juger ça. C'est mon collègue et ami Mathieu Despinoux de Cocktail Games, justement, je lui faisais jouer au jeu cet été. Cet été. Et puis, il me disait, ouais, Christian, je crois que t'es quand même doué pour faire des jeux d'ambiance pour joueurs, pour les gens qui ont un petit peu... parce que moi-même, en fait, je suis joueur, j'aime jouer à des jeux de Vladosh Fatil autant que j'aime jouer à des trucs débiles comme des jeux Cocktail Games, tiens. J'en ai plusieurs à la maison.
Bonjour Mathieu.
Ouais. Ça lui fera plaisir.
Et donc voilà, on aime bien ce... J'aime bien en fait les jeux qui font des ponts. Donc, tu joues un mot pour mot, ben ma grand-mère peut jouer, mais je crois que quand t'es un joueur aguerri, tu t'ennuies pas quand tu joues à mot pour mot. Et comme Zombie Kids, c'est un jeu familial, voire pour enfants. Mais quand t'es un joueur, tu t'ennuies pas à jouer avec ton enfant à Zombie Kids.
On a organisé un tournoi de mots pour mots dans mon entreprise.
Cool.
À pratiquement 80 personnes par équipe de 8. C'était un beau moment.
J'ai envie de finir cette interview avec toi, Christian, en parlant un petit peu de l'entreprise Scorpion Masqué. Et notamment, depuis quelques années, à chaque fin d'année, tu fais un compte-rendu d'activité que tu publies sur TrickTrack, peut-être ailleurs, mais en tout cas, c'est là que je le vois. Et vraiment, en toute transparence, donc, tu parles de cette année, des bons côtés, des mauvais côtés. Qu'est-ce qui te pousse à faire ce bilan public?
Alors, l'idée est venue, comme je le mentionne dans le premier et dans le deuxième compte-rendu, de Steve Jackson Games, qui fait la même chose depuis une quinzaine d'années, je crois. Et moi, deux choses. Je suis curieux, j'aime apprendre et ce genre de lecture me fascine vraiment. Je trouve que c'est extrêmement intéressant de lire ce que les autres font. Même parfois, à la blague, je dis, j'aime entendre les mauvais coups de mes collègues, pas parce que je me réjouis de leur malheur, au contraire, mais parce que des fois, ça me soulage. Ah, je suis pas le seul con sur cette planète. Et donc, parce que, savez-vous quoi, des fois, on fait des erreurs au Scorpion Masqué. Et deux, pourquoi je le fais? Ben, je suis un ancien prof et j'aime la diffusion du savoir. Je crois que les gens... j'aime que les gens sachent ce qui se passe, connaissent la vérité. C'est un peu naïf de ma part, mais bon. Et je crois que d'autres partagent ma curiosité. Donc, j'aime aussi diffuser cette information parce que parfois, on se promène sur les forums de discussion et on voit des choses qui sont, je vais faire un euphémisme, fausses. Mais carrément à côté de la plaque, voire de mauvaise foi, je sais pas.
Ouais, ouais.
Et donc, j'espère répondre un peu par...
La transparence, quoi.
Ouais, la transparence, c'est comme ça que ça se passe. Les gens s'imaginent des choses. Ça me fait rigoler parfois... On voit sur Facebook des commentaires les grands éditeurs aujourd'hui Libellude, Repoprod, Scorpion Masqué. Je dis non, mais Libellude et Repoprod, oui, sont dans la même ligue, mais moi je suis dans deux catégories en dessous. Là, on parle de nous, mais en termes de chiffre d'affaires, il y a rien de comparable. Même Captain Macaque, dont on parle à peu près pas avec le jeu Cortex. Aidez-moi un peu.
Cortex Challenge.
Oui, voilà. Donc c'est dans une autre sphère. Et j'aime bien rectifier, même si c'est pour montrer finalement que non, on n'est pas aussi gros que vous pensez. Mais voilà, j'aime que les chiffres soient là. Aussi, j'ai tellement vu de gens se lancer en édition et hypothéquer leur maison, sortir leur fonds de pension et se ruiner. Je n'ai rien à gagner, le milieu du jeu n'a rien à gagner à ce que des gens se ruinent de cette façon et connaissent de tels échecs. Et donc, j'aime mieux mettre carte sur table et dire, voici comment ça se passe. Il y en a des fois qui s'imaginent que c'est plus doré ou que c'est plus sombre, mais voici comment ça se passe.
Mais tu dis que tu joues pas dans la même cour que Libellude ou Roboprod, mais t'as quand même, en voyant les chiffres, vous avez quand même une courbe de progression qui est énorme.
Oui. Ben on voit très bien, courbe de progression énorme. En même temps, dans les dernières années,
une forte augmentation du chiffre d'affaires.
Oui, c'est ça. On est passé depuis 2014, c'était quoi? C'était, faut pas que je me trompe. Le Manu est arrivé en 2015. Donc, 2014, on avait quoi, là? 400 000. Bon, on a triplé, quadruplé en 3-4 ans, mais, on est encore très, très loin. Avant, c'était très modeste. J'étais seul. Oui. Donc, je me dégageais un salaire. Mais voilà. Donc, pour atteindre là où ces entreprises sont, je connais pas leur chiffre d'affaires, mais des fois, je me fais dire, bon, on a vendu 70 000 concepts. Ben, waouh! Et le rajoute là-dessus Seven Wonders Duel.
Ah oui, c'est sûr qu'il y a des grosses locomotives.
Waouh! Je me doute qu'on n'est pas tout à fait dans la même ligue.
Et il y a maintenant 5 personnes à plein temps, je crois, chez Scorpion Masqué, si ouais. J'ai bien lu le petit bilan, justement.
Voilà, j'ai 4 employés plus moi qui travaillons tous à temps plein. Il y aurait probablement du travail pour peut-être une personne supplémentaire en communication, mais même là, même malgré tous les succès qu'on connaît, ce serait serré, en fait. Donc, je veux décourager personne de se lancer dans l'édition, mais des fois, je dis, vous voyez, là, ça fonctionne bien, mon truc. On a vendu tout plein de Je te gâche que, on a vendu tout plein de Chasse aux monstres, de
Miss Poutine,
de Kipper Gang et de des cryptos. Et malgré ça, on ne vit pas grassement, on se promène pas en limousine et je me promène toujours en jean t-shirt. J'ai pas à me plaindre, je vis bien, mais je me verse un peu plus que quand j'étais prof, mais c'est pas les gros chars, comme on dirait, au Québec.
J'ai vu aussi que tu avais changé de distributeur. Tu es passé de Yellow à Asmodée.
Oui.
Alors pourquoi ce choix? C'est pour avoir une meilleure visibilité à l'international. Est-ce que un plus gros distributeur c'est mieux pour le Scorpion Masqué?
Alors c'est une décision d'affaires parce que j'avais bien du plaisir à travailler avec Yellow. Il y avait des raisons logistiques sur certains aspects parce que je travaille avec plusieurs partenaires d'Asmodée, mais je suis pas dans le groupe, donc ce n'est pas eux qui se chargent de mon export. C'est moi qui, en direct, je deal avec chacune des franchises d'Asmodée en Allemagne, en Italie, en Espagne. D'ailleurs, bien souvent, je faisais des affaires avec certains distributeurs qui n'étaient pas Asmodée et qui ont été rachetés ensuite par Asmodée. Et donc, ouais, c'est ça. C'est une décision d'affaires, une question de visibilité en France. Et il y avait des questions logistiques aussi, notamment je travaillais avec Asmodée Belgique et là ça commençait à être un petit peu plus problématique, donc c'est ce qui a motivé ma décision. Et puis c'est complètement différent parce qu'on passe d'une entreprise où bon à chaque poste chez Yellow il y a une personne qui fait le truc, il y a une personne à l'entrepôt, il y a plus qu'une personne qui travaille à l'entrepôt, mais il y a un responsable, il y a une personne au marketing pour les festivals, il y a une personne au marketing pour les médias, mais il n'y a pas 4 personnes comme chez Asmodée. Ce qui fait que ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de travailler avec une grande entreprise, mais qui a une plus grande force de frappe. Donc, ça nous demande plus de travail. Mais par contre, pour l'instant, je suis bien heureux de mon changement.
Pour finir, j'ai lu qu'il y avait 5 sorties pour revenir au jeu prévues en 2019.
C'est trop.
Une charge de travail énorme.
Oui, et puis j'en demande beaucoup à mon personnel, je les remercie et je m'excuse auprès d'eux pour cette année. L'an prochain, nous allons diminuer, c'est promis. Donc, Stay Cool qui sort 22 mars, si je ne me trompe pas, ou environ. On aura une sortie pour le Québec seulement, La Jean-Jean, qui est une bande dessinée absolument inconnue ici, mais qui au Québec s'est vendue à près d'un million d'exemplaires. Et là, faites un calcul, là, on est à peu près 7 millions de francophones au Québec. C'est hallucinant. C'est très, très fort là-bas. On sort une extension de Décrypto. On sort un jeu de rapidité sur un principe de taquin qui va s'appeler Flash 8. Et on va sortir le prochain jeu de la gamme Petit Monstre. Mia London et l'affaire des 625 fripouilles. Voilà.
C'est dans la gamme Petit Monstre?
C'est dans la gamme Petit Monstre, celui-là.
Est-ce qu'un titre aussi long va rentrer sur la boîte?
ça va rentrer sur la boîte, j'ai confiance. Et donc, en fait, c'est une espèce de concours de circonstances. On avait des choses qui étaient signées depuis longtemps, mais que on avait tardé à développer ou on n'avait pas trouvé dans le développement ce qui nous satisfaisait. Et donc, en fait, là, on trouve et arrive le moment, ben, faut les sortir. Les contrats viennent à échéance. Les auteurs s'impatientent avec raison. Et donc, on les sort cette année. En même temps, ce sont 5 projets assez différents. Hein. On a un jeu d'ambiance pure avec C'était Cool. On a une extension à des cryptos. C'est une extension, on vend pas ça de la même façon. On a un jeu sur un principe de licence qui va se vendre presque seul. En fait, la difficulté, ça va être de fournir. Et on a un jeu pour enfants dans la gamme Petit Monstre et un jeu de rapidité familiale. Donc, on a vraiment 5 projets assez différents qui s'adressent à des publics différents. Parce que l'idée, c'est vraiment pas de sursaturer le marché. C'est une très mauvaise idée de sortir plein de jeux, à mon avis, et puis d'essayer d'aller à la pêche. Nous, on favorise vraiment de prendre soin de nos jeux, de limiter le nombre de sorties et que chacun ait sa fenêtre.
Le dernier jeu que tu as cité dans la gamme Petit Monstre, c'est un jeu d'Antoine Bauza, je crois.
Antoine Bauza et Corentin Lebras.
Et Corentin Lebras. Donc, voilà. La moitié de la team Kaedama.
Oui. Et puis, ben, mentionnons donc les auteurs des autres jeux, évidemment. Flash 8, c'est un jeu de Joanne Dufour, un auteur toulousain, si je ne me trompe pas, qui est vraiment très, très ingénieux. On aura une version solo et ça se joue jusqu'à 4 joueurs.
Très bien, eh bien, il nous reste à remercier notre invité Christian Lemay du Scorpion Masqué. Merci d'être venu nous voir ce matin et d'avoir pris de ton temps pour parler à l'antenne de Proxy Jeux. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On n'oublie pas la page Tipeee, ouais, ça nous
si
fait plaisir.
Si vous voulez nous aider un petit peu à faire toujours plus d'interviews sur les festivals, etc., ça nous aide.
Allez, on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À très bientôt et surtout, jouez bien.